tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve comme chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons une danseuse, Laura Arand. Bonjour, bonsoir mademoiselle.
Bonsoir.
J'ai dit mademoiselle parce qu'en fait, cette jeune femme est très jeune devant moi. Donc, vous allez voir tout ce qu'elle fait. C'est incroyable. Je crois qu'elle doit être clonée quelque part. Vous êtes chorégraphe, danseuse. Vous avez fondé votre propre compagnie, l'Arc. Oui. Vous êtes entrepreneuse aussi parce que vous avez créé un gala qui s'appelle Espoir, en fait. Et vous êtes aussi maman. C'est extraordinaire. Vous êtes née à Forbach, en Lorraine. Mm-hmm. Et vous avez toujours eu envie de danser, en fait ?
Ouais, c'était vraiment, depuis que, aussi loin que je puisse me rappeler, c'était vraiment un rêve d'enfant. Depuis que j'ai 9 ans, je sais que je veux être danseuse.
9 ans ? Donc vous avez commencé les cours de danse à peu près à 9 ans ?
À 4-5 ans, parce qu'on faisait de la danse, ma grande sœur faisait de la danse. Et voilà, très naturellement, j'ai commencé les cours une fois par semaine, puis deux, puis trois, et ainsi de suite.
Donc on va saluer une personne qui vous écoute, Geneviève. Non, c'est elle qui vous a emmené.
C'est vrai. Qui est
votre maman.
Fait, tout à fait.
Donc on la salue.
Bah bien sûr.
Donc vous en 2006, vous avez 15 ans et vous gagnez la médaille du concours international de Caen avec la présidente de Patrick Dupont. Quelle
tout
rencontre.
Tout à fait. Oui, c'était. Bah, ça fait des souvenirs là maintenant, vous me les jetez comme ça. C'est vrai que c'était 2006.
Oui, oh, j'ai noté 2006.
Wow, ça
oui.
Fait 20 ans.
Vous ne les faites pas, je vous dis tout de suite.
Oh, merci. C'était un moment important, oui, parce que c'était une période où je faisais pas mal de concours de danse. Et c'est vrai que cette médaille d'or, elle avait vraiment. Elle m'avait donné une confiance en moi et de la validité. Et en plus, que ce soit Patrick Dupont,
ouais, c'est extraordinaire.
C'était assez ouais, chouette.
Ouais. Super danseur aussi. Mm. Et puis, vous intégrez effectivement le Conservatoire de musique et de danse de Lyon.
Oui, tout à fait. Ça, j'avais 15 ans. Et c'est, y en a deux. Il y en a un à Paris, un à Lyon. Et à l'époque, ça faisait partie. C'était les deux formations qu'il fallait faire. En classique, c'était l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et quand on voulait être danseur contemporain, c'était vraiment les deux formations supérieures qui existaient. Donc, ça avait été un sacré challenge parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus pour entrer dans l'école. Et c'est une formation de 4 ans. À Lyon.
4 ans. Mais en fait, vous faites classique et contemporain, c'est ça ?
On a une dominante. Moi, j'étais en contemporain. On a quand même, je crois que c'est 3 fois par semaine du classique.
Du classique, oui.
Mais toute la journée, c'était du contemporain. Après, il y a plein de matières aussi qui viennent compléter l'enseignement, la formation musicale, histoire de la danse.
Oui, oui. Et vous apprenez un instrument aussi ? Vous avez appris à jouer d'un instrument ?
Juste non, formation musicale pour
juste
les danseurs. Ouais.
D'accord. Et en fait, j'ai vu, on parle de jeune ballet. C'est l'aboutissement des formations, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, en fait, la quatrième année, c'est un jeune ballet. Et c'est, on nous donne une première expérience de ce que c'est, toujours en étant étudiant, mais de ce que c'est une vie de compagnie. Il y a des chorégraphes qui viennent, qui nous créent une pièce et on a quelques spectacles pendant l'année. Et c'est vraiment un moment de transition qui nous permet aussi, toute cette année-là, de pouvoir faire des auditions pour rentrer dans des compagnies.
En fait, je vois que très vite, vous avez commencé à transmettre. En réalité. Oui. Et je vois que vous avez donc une base contemporaine et de création et vous avez proposé à des adolescents et des adolescentes, je ne sais pas si vous vous souvenez, de créer une compagnie, enfin pas une compagnie, mais de créer une pièce.
Alors ça, c'est au sein du conservatoire, il y avait tous les ans, ça s'appelait des cartes blanches et on pouvait créer avec les gens de notre classe des pièces. Donc, mais en fait, depuis que je suis toute petite, ça remonte à jouer avec ma sœur et mes cousines. On a toujours créé des spectacles. Ma maman, elle est très créative aussi. Donc, on a toujours beaucoup été dans la création. Et c'est vrai que, en plus, je savais que je voulais faire de la danse, Mais très vite, j'ai aussi su que je voulais être chorégraphe.
Chorégraphe aussi, oui. Ouais.
Que c'était,
aussi.
Ça n'allait pas m'intéresser d'être juste danseuse.
Juste interprète.
Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui n'allait pas me nourrir assez.
Oui, ben oui, vous allez voir, vraiment, Laura est extraordinaire, elle fait beaucoup de choses. Alors, tout d'un coup, vous partez en Inde. Et pour une formation de yoga et devenir professeur, justement.
Oui, ça, c'était après. Alors, d'abord, il y a.
On est en quelle année
Alors, d'abord, il y a eu New York et après.
Ah, c'est d'abord New York.
D'abord
en fait.
New York.
Alors, j'ai pas l'ordre. Non.
Alors, donc, après Lyon, je rêvais d'aller aux États-Unis. J'ai intégré une autre école après le conservatoire qui s'appelle Merce Cunningham.
Oui.
Et j'y ai passé 2 ans à New York. Ça a été un rêve. 3 ans au total, parce qu'il y a eu un an un peu plus freelance. Et c'était un rêve vraiment d'enfant d'habiter à New York, de danser à New York, de découvrir la culture américaine. Et ensuite, après New York, je suis partie en Israël, où là, je devais faire 5 mois. Et je suis restée 7 ans.
Voilà.
Kibbutz Dance Company. Tout
alors
à fait.
Bon, tout ça, ça se mélange. Parce qu'en fait, il faut dire aussi à New York qui est ce
Merce Cunningham.
Oui.
Bah, Merce Cunningham, c'est
un super chorégraphe.
Tout à fait. C'est un des fondateurs, des créateurs de la danse contemporaine, un des pionniers. Il est décédé quand j'y étais, donc c'est en 2011, oui, je crois, voilà, 2010, oui. 2011 qu'il est décédé. Et il fait partie de cette. Il y a Trisha Brown, il y a plusieurs chorégraphes qui ont vraiment révolutionné et créé la danse contemporaine. Son répertoire, il est encore repris à l'Opéra de Paris par des grosses compagnies. La compagnie, elle, n'existe plus parce que c'était son souhait à lui. Que la compagnie s'arrête après son départ. Mais c'était vraiment très, très intéressant de me plonger. C'est une manière totalement différente de danser, très structurée, très carrée. Et c'était un vrai challenge physique aussi. Voilà.
Encore dans l'apprentissage, en Israël, en fait, vous avez aussi dansé avec un chorégraphe qui a inventé une technique qui s'appelle Gaga. C'était incroyable.
Alors,
ça,
le Gaga, c'est le directeur de la Batsheva, c'est une autre compagnie de danse. Moi, je n'ai pas dansé pour la Batsheva, j'ai dansé pour Kibbutz, mais le Gaga, ça m'a profondément... Tout le monde fait du gaga quand on est en Israël ou en tant que danseur. Tout le monde a expérimenté au moins une fois, je pense, cette technique. C'est basé sur l'inspiration, sur l'improvisation. Oui. En fait, on a un prof, il ne se dit pas vraiment prof, mais et il va nous guider pendant 1 heure. Et c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience, on utilise énormément notre imaginaire. Et ça a vraiment développé une forme de liberté chez moi que j'affectionne tout particulièrement. Et dès que je peux ou dès que j'ai l'occasion de prendre un cours de gaga, c'est vraiment un vrai plaisir.
En fait, j'ai vu cette technique, c'est avec beaucoup de lenteur en réalité, c'est ça, je me trompe? Est-ce que j'ai regardé un petit peu, j'ai l'impression que c'était tous les mouvements étaient excessivement lents en fait. Est-ce que je non
là,
si je si
j'ai
si,
le droit si, de
vous avez le droit
alors
au contraire,
je
on veut savoir
non je pense qu'au contraire non, c'est
contraire.
Très on joue sur tous les rythmes, sur toutes les pulsions du corps, sur toutes au contraire ça peut même aller, il y a des moments où c'est assez cardio, encore une fois ça dépend de la personne qui va diriger l'heure de gaga. Ça, c'est très varié, mais souvent il y a quand même un peu ce moment de dépassement de soi.
Bon, ben, très
assez
bien.
Physique.
Alors, festival de danse de hip-hop en Israël.
Oui, alors là,
ça
je ne sais pas pourquoi.
On veut savoir pourquoi.
Je ne sais pas.
C'est à l'opposé, pratiquement.
Totalement. J'ai rencontré une danseuse, professeure de gaga d'ailleurs, et on parlait du fait que ça n'existait pas en Israël. Et c'était vraiment, mais très, très chill, autour d'un verre, on parlait.
Improvisé complètement.
Voilà, et on s'est dit, c'est marrant, si ça n'existe pas, faisons-le. Moi, le hip-hop, jamais fait du hip-hop de ma vie, jamais. Mais comme vous l'avez dit, je pense que vraiment, c'est aussi de famille d'être entrepreneuse.
Bien
et
sûr.
De se dire, ça n'existe pas, on va le créer.
On va le faire, bien sûr.
Et du coup, c'était un format très simple. On a demandé, en fait, on a voulu mettre la lumière sur des chorégraphes hip-hop israéliens. Donc, c'était une soirée qui avaient cartonné et on leur avait proposé à chacun de créer une petite pièce de 10-15 minutes. Et c'était vraiment le premier événement hip-hop qu'il y avait eu dans le pays. Ouais. Ouais, c'était une expérience très chouette.
Vous êtes dans quelle ville
en
Israël, en fait ?
Alors, le kibboutz, c'est dans le nord, c'est à la frontière avec le Liban. Et après, j'ai habité à Tel Aviv.
Ouais. Alors, est-ce qu'on revient vers l'Inde ? Parce que moi, j'ai vu donc...
Alors, l'Inde, 2016... c'était la pause. J'étais en Israël quand je suis partie en Inde. Et ça, c'est parce que je... Pourquoi je suis partie en Inde ? Parce que ça a dû me prendre un matin. Et je me suis dit que j'avais envie. C'était avant que le yoga soit tellement à la mode et que tout le monde en fasse. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire cette retraite de yoga, de faire cette formation. Et du coup, voilà, je suis partie 3 semaines en Inde pour apprendre à enseigner.
Mais vous êtes resté plus que 3 semaines, si je comprends bien, c'est ça ?
Non, là-bas, 3 semaines, oui. Un peu plus, 4 peut-être. Et après, je suis revenue du coup avec mon diplôme de yoga. Ça a été une expérience incroyable. Et j'ai, pendant quelques temps, je donnais ponctuellement des cours de yoga. Ça m'arrive encore, mais rarement d'en donner. Je trouve que c'est très personnel, mais du coup, il y a un tel engouement et... J'ai l'impression que tout le monde est prof de yoga, que c'est plus très trop respecté.
C'était démocratisé un peu, c'est ça que vous voulez dire ?
Ça s'est démocratisé, c'est bien, mais je pense que c'est devenu un sport, quoi.
Il n'y a plus de spiritualité, il y a moins
exactement.
De spiritualité. Mais là, quand vous étiez en Inde, vous étiez dans quelle ville ?
J'étais à 1 heure de Goa, dans le sud, ça s'appelait Agonda.
Oui.
Et c'était génial parce que c'était un moine qui venait nous donner les cours de philosophie. C'était vraiment les toutes premières formations de profs de yoga. Et on était peut-être 10 de partout dans le monde, 10 filles. Et aujourd'hui, je sais pas, ils doivent en faire... Ils sont 50 et...
Avez vu ces moines qui ont marché pieds nus aux États-Unis ? Vous avez vu ça ?
Non. Récemment ?
Oui, récemment.
Non, j'ai pas vu.
Vous irez voir.
Oui.
Alors, Iyama.
Iyama, c'était ma...
2016 ?
Ouais, elle s'était inspirée vraiment de ce voyage. En fait, je me suis dit... Qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant que créatrice et j'ai trouvé intéressant, j'ai un peu de cette naïveté de penser qu'on peut vivre dans un monde sans frontières,
non, mais il faut penser
sans
comme
passeport.
Ça. On peut vivre dans un monde sans frontières, sans passeport.
Et du coup, je me suis dit, j'aime tellement voyager, ça fait tellement partie de moi que à travers mon art, j'aimerais que pour chaque pièce, mettre en avant une lumière, une culture, donner envie aux gens de voyager. Et donc, les yamas, c'est des principes, celle encore, dans le yoga et dans la philosophie bouddhiste. Et du coup, je les ai mis sur scène. Et c'était une pièce pour 6 danseurs. C'était ma première création. Donc, je suis très attachée... à cette pièce. Maintenant, bien sûr, il y a 10 ans qui sont passés, quand je la vois, je vois les imperfections de la jeune créatrice que j'étais. Mais ce sera toujours une saveur particulière, cette pièce.
Oui, mais en fait, vous le voyez, mais le spectateur ne le voit pas. En fait, il ressent simplement ce que vous avez
voulu. Tout à fait. J'espère.
Alors juste, Yama, est-ce que c'est le dieu juge des morts ? C'est qui, Yama ? Est-ce que c'est...
Alors, il y a ça, mais il y a en fait aussi 5 principes dans les Yamas.
Ah, ce sont des principes.
Oui, des principes, ne pas voler, qui sont 5 principes de vie qui du coup, rythment le spectacle. En fait, sur chaque Yama, je mettais le focus.
En fait, là, aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vient d'entendre, vous avez une formation internationale, pratiquement.
Oui, ça, oui.
Comment on interprète votre art ? Est-ce que c'est de la danse contemporaine ?
Oui, c'est de la danse contemporaine. Après, depuis... là, c'est la nouvelle création, donc je pense qu'on va parler
parler, bien sûr.
J'ai pris un nouveau tournant parce que ça fait quelques temps que j'ai eu la chance de travailler avec des danseurs classiques et je me suis découverte une passion pour travailler avec les danseurs classiques. Donc, c'est la danse contemporaine, mais je tire de plus en plus vers le classique, le néoclassique.
Néoclassique,
quand même.
Oui. Ouais. En fait, il y a plusieurs influences. Alors, il y a Martha Graham, la danse moderne. Il y a Béjart aussi, le néoclassique.
Oui.
et Pina Bausch, que j'adore, et la danse théâtre.
Tout à fait.
Pina Bausch, c'est absolument...
Pina Bausch, ça reste mon idole. Je pense que comme beaucoup de chorégraphes, le personnage, sa manière de travailler, ses spectacles, ce qu'elle a fait de la femme aussi, de la libérer comme ça. Et puis c'était vraiment pour moi là... Il y a eu Martha Graham, oui, mais pour moi, Pina, c'est vraiment la première femme chorégraphe, parce que c'est souvent aussi un mythe que le monde de la danse est un monde féminin. Surtout à l'enfance, ça peut être très féminin, mais après, dans le monde professionnel, c'est un monde, je dirais pas exclusivement, mais c'est un monde très très masculin. Et donc elle, c'est pour beaucoup de femmes chorégraphes, je pense, un exemple d'avoir enfin une femme chorégraphe forte en fait, la lumière.
Les femmes créent, les femmes dansent, mais c'est aussi les hommes qui gèrent en fait quelque part. Donc c'est ça un peu ça notre problème. est-ce qu'on peut dire que les deux éléments qui caractérisent votre travail pédagogique, c'est le plaisir d'être en mouvement et la connaissance de soi. Est-ce que ce
Tout
sont
fait.
Des choses qui...
Ça, c'est ce que j'aime partager à travers mes workshops et des masterclass que je peux donner. C'est en effet parce que j'utilise aussi, il y a donc cette influence du gaga, mais de l'improvisation. Et en fait, l'idée... Quand je me dis que les gens vont venir passer 2 heures avec moi dans un studio un samedi matin, il faut qu'ils se fassent plaisir parce qu'en fait, tout le monde danse. La danse, c'est pour moi, c'est ma plus grande joie, c'est mon plus grand plaisir. Et du coup, je n'ai jamais connecté avec l'idée de l'artiste torturé ou ça. Moi, c'est ma vie dans le bon sens du terme, c'est ma passion avec tout ce qu'il y a de positif autour.
Bien sûr. De toute façon, la danse, c'est la joie quand même.
Ben, je pense aussi.
Ouais, oui, bien sûr. Est-ce que je me trompe si j'ai lu quelque part que chaque session commençait par la méditation? Vous faites une séance de méditation?
Oui, ça, c'est dans les workshops que
vous
je
organisez.
Donne. Tout à fait. Ça commence toujours. En fait, je lis toutes mes connaissances, il y a un peu de gaga, il y a du yoga, il y a un peu de Cunningham. En fait, c'est vraiment un moment où pendant 2 heures, les gens se connectent à leur corps, à leurs émotions. Et donc, ça commence toujours un peu par la méditation pour pouvoir les mettre dans leur bulle. Qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant, qu'on soit dans l'instant T et qu'on prenne plaisir.
Et après, l'improvisation qui est aussi une super notion de liberté.
Ah bah tout à fait.
C'est incroyable.
Et en plus, les gens ont un peu peur souvent quand on parle de « il va falloir improviser ».« Ah mais moi, j'ai pas d'idée ». Et en fait, c'est pas... Bien, en plus, je suis là pour les guider, mais c'est pas... L'idée, c'est pas de produire ou de créer, c'est juste de se laisser porter, quoi.
Juste comme ça pour savoir, parce que je l'ai pas noté ça, mais vous donnez des cours, donc vous donnez où des cours? C'est pas vraiment des cours.
Non,
fait.
C'est ponctuel. C'est ponctuel. Par exemple, là, on a eu la première... du spectacle et du coup le lendemain j'ai proposé un atelier, un workshop, ce sera pareil la semaine prochaine après le spectacle. C'est souvent quand il y a des spectacles où après on crée un temps d'échange avec le public, mais ponctuellement j'en donne
non, vous donnez pas. De toute façon vous travaillez avec votre compagnie l'Arc,
oui,
c'est ça?
Tout à fait, l'Arc.
Et donc en fait avec l'Arc vous conjuguez en fait les deux, la danse et les voyages quelque part.
Exactement.
Ça bien. Qu'est-ce que ça veut dire l'Arc à
Alors à la base, c'était Laboration Art Company parce que je voulais qui est le mot laboratoire, parce que je me suis dit je vais expérimenter et puis je savais pas si je voulais faire que de la danse ou et enfin, du coup, j'ai mis art. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai que j'avais même pas réalisé à la base, c'est que LAC, ça faisait aussi Laura Arend Company.
Oui.
Et en fait, plus le temps passe, plus j'utilise simplement LAC. Oui. Et je me dis, c'est plus reconnaissable, c'est mon nom, voilà. Donc ça a un peu évolué.
Et puis on imagine un lac en plus.
Exactement.
Donc c'est très beau. En fait, vous avez aussi, vous portez plutôt votre attention sur la jeunesse, apparemment, et vous participez avec le ministère de l'Éducation nationale, ça, qu'est-ce que vous faites?
On a fait, en fait, pendant plusieurs années, ma maman, elle était professeure, et en fait, on a monté un projet soutenue par le ministère de l'Éducation nationale, où en fait on a créé à la fin, la finalité c'est qu'il y a même eu la création d'une comment on dit, d'une section danse dans le collège. Mais en fait, à la base, c'était vraiment un projet pédagogique où pendant, je crois, quelques semaines ou mois, j'intervenais de manière régulière auprès de certains élèves. Et ensuite, on a créé un petit spectacle. Et en fait, plus les années passaient, plus ce projet a grandi. Et voilà, jusqu'à ce que ça devienne carrément une section danse au sein du collège.
C'est génial.
Ouais, c'était
donc
vraiment super.
Chaque année,
super.
C'est renouvelé.
Chaque année, c'était renouvelé. Chaque année, on rencontrait d'autres élèves qui avaient peut-être au début des réticences et qu'on arrivait à travers le prisme de l'art à leur donner confiance en eux et on a vu vraiment des choses extraordinaires, très touchantes même de retour de parents qui nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu leurs enfants comme ça et c'était
c'était une
énorme reconnaissance ce projet. Ouais.
Et juste avec l'art, vous avez fait beaucoup de pays parce que la liste est énorme et beaucoup aussi de représentations.
Tout à fait. La compagnie, elle tourne. On veut toujours ce qu'on n'a pas. J'aimerais avoir plus de spectacles en France. Mais
vous allez dans tous les pays du monde.
Mais
ça,
on tourne plus à l'étranger. Ouais, ouais. On a beaucoup, beaucoup de dates et de spectacles à l'étranger. Et après, j'en suis très fière. J'adore voyager.
Même,
donc
c'est
ça
fantastique.
Va.
On part à Porto Rico ?
On part à Porto Rico.
Allez. On part à Porto Rico.
¿Quieres divertir? Otra vez lo sacamos al estadio.
To the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Hondurans.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huele rico y ando con los de 100.
Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
Eh bien, c'était Bad Bunny.
Oui.
Vous avez choisi ce titre parce que c'est complètement dans l'air du temps aujourd'hui. Hein.
C'est dans l'air du temps et c'était aussi parce que la semaine dernière, c'était la première de notre nouvelle pièce. Et c'est vrai qu'avec les filles, on a regardé ensemble le Super Bowl et que du coup, c'était l'occasion encore une fois.
Ouais,
je trouve que le reggaeton, ça met de la couleur.
Absolument.
Ça fait plaisir.
Vous êtes toujours sur Aligre FM, l'émission en tant qu'il y a des femmes. Nous recevons donc Laura Arendt qui nous parle de la danse. Laura est chorégraphe, danseuse, créatrice d'une compagnie qui s'appelle L'Arc. On peut en parler aussi du gala Hop. Mm-hmm. Et puis, Laura est maman aussi. Donc, on va parler de tout ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de jeunes ballets et vous avez aussi fait quelques pièces pour les jeunes ballets européens.
Oui, pour le jeune ballet européen et le jeune ballet d'Aquitaine.
C'est ça.
Donc ça, c'était vraiment des commandes. Ils sont venus me proposer de créer des pièces pour ces jeunes danseurs. C'est très intéressant parce que on voit une nouvelle génération, aussi différent, une approche différente aussi, je trouve, que j'ai pu avoir quand j'étais en formation. Et c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé.
Et vous avez donc, j'ai vu en 2017 et 2020 aussi pour l'Aquitaine, pour le jeune ballet d'Aquitaine.
Oui, voilà.
Et vous avez proposé quoi comme thématique à ces sommets? Bon, c'est la question piège.
Là, c'est la question piège. Alors, il y avait une pièce qui était sur l'idée d'un unisson et la toute première.
Alors,
bonne question.
On va revenir à Tel Aviv. Parce que je n'étais pas dans l'ordre des voyages. Parce que vous avez effectivement, pour la 5e du mouvement Dada.
Oui.
C'est au moment où vous étiez à Tel Aviv que
tout
vous avez
fait. Tout à fait. Ça, c'était une commande du sublime musée de Tel Aviv d'art contemporain. Et en fait, c'était le centenaire du mouvement Dada. Et du coup, ils m'ont demandé de créer une performance dans le musée solo sur le Dada, le mouvement Dada. C'était un moment très particulier, très fort. Il y avait le soutien de l'Institut français aussi. Et c'était vraiment j'aime beaucoup l'art contemporain et du coup c'était vraiment pas la première fois parce qu'on avait j'avais eu une expérience avant mais de trouver ce vrai lien entre l'art contemporain et la danse et j'ai trouvé ça passionnant.
Ouais, j'imagine, ça a dû vous inspirer parce que le dadaïsme, bon, c'est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle et qui remet en question les conventions, traite d'idéologie, esthétique, politique, ça. Donc ça a dû vous inspirer, j'imagine.
Ah oui, il y avait de quoi faire.
Vous avez de quoi faire.
Et l'exposition, je me rappelle très bien, en tant que telle, elle était incroyable, tellement presque improbable. Enfin, je veux dire, il y avait un plat de spaghettis à côté d'un. Enfin, tout était du dada, quoi. Donc, c'était très drôle.
Ouais.
Et puis, il y avait aussi cette idée de ne pas trop se prendre au sérieux et de s'amuser, quoi.
Oui, dada, c'est ça, de ne pas se prendre au sérieux et tout révolutionner et tout faire exploser. Donc,
c'est
t'as fait ça. Mais est-ce que vous filmez vos ballets? Vous gardez les.
Oui. Maintenant, c'est devenu. Bah, encore plus. Avec les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu, ça a changé complètement notre manière de travailler, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que maintenant, c'est une obligation. À chaque spectacle, il y a la vidéo complète, des petites capsules, des trailers.
Oui,
ça, c'est devenu vraiment un format obligatoire.
2023, duo Mary.
Mm-hmm.
Et ça, c'est avec deux danseuses du Danish Ballet.
Tout à fait. J'ai fait. En fait, c'était. À la base, c'était un duo que j'avais fait avec une amie qui s'appelle Fanny Sage. On avait déjà fait un duo qui s'appelait Anna. Et on a fait ce duo. Et ensuite, on m'a demandé de le reprendre avec deux danseuses du Danish. Et c'était très intéressant de voir. comment, parce que nous on est deux danseuses contemporaines, de voir comment deux danseuses classiques avec une vraie formation ballet réinterpréter ce duo que nous on avait créé.
Ah mais c'est intéressant. Mm. Alors il faut savoir quand même, bon, cette compagnie est au Danemark, à Copenhague.
Oui. C'est l'équivalent de l'Opéra de Paris en fait.
C'est ça. Voilà. Mais c'est extraordinaire parce que c'est la plus ancienne compagnie de ballet au monde.
Ah ben je ne savais pas.
Eh bien voyez, je suis ravie de vous apprendre quelque chose.
Voilà.
Et en fait, elle a été créée en 1748.
Ah wow.
À l'ouverture, à la fondation du théâtre royal danois.
Ok. Donc,
voilà. Et en fait, cette pièce est inspirée, que vous avez créée, Mary, est inspirée du courrier entre Joséphine
tout à fait.
Et Napoléon.
Et Napoléon, tout à fait. J'avais envie de parler, j'ai tout de suite dit à Fanny, quand on a créé ce duo, je lui ai dit j'ai envie de parler d'amour. j'ai un livre de... où c'est les plus belles lettres d'amour. Et donc, je suis tombée sur ces lettres, malgré la complexité
du couple
et du personnage.
Et du personnage, Napoléon, bien sûr.
Voilà,
bien sûr,
c'est pas non plus un ange. Hein.
Oui, bah oui.
Mais en tout cas, j'ai trouvé que ces lettres, elles étaient d'une puissance folle. Et puis, il y avait aussi, on a des longues robes blanches, il y avait presque cette envie de parler de ce rêve de petite fille et d'amour et du prince charmant, mais dans tout ce qu'il y a de plus, encore une fois, de plus beau et simple, sans controverse, sans... Voilà,
c'est vrai qu'on n'imagine pas Napoléon amoureux, on imagine conquérant, mais pas
exactement.
et vous avez donné cette pièce aussi à Baden-Baden, je vois.
Voilà, oui, en Allemagne.
Et au théâtre de Chaillot.
Et au théâtre de Chaillot, tout à fait. Oui.
Et apparemment, vous avez beaucoup de commandes parce que vous travaillez beaucoup.
Oui.
Vous travaillez beaucoup, c'est incroyable.
J'ai de la chance.
Vous avez en tant que chorégraphe, mais aussi en tant que danseuse. C'est-à-dire que vous dansez quand même en dehors de.
Je danse de moins en moins,
oui,
mais j'ai beaucoup dansé.
On va dire pourquoi.
mais oui, en fait, j'ai toujours. Encore une fois, je suis très très curieuse et je m'étais dit, et encore plus maintenant, j'ai envie de tout essayer. Donc il y a plein d'expériences différentes qui sont arrivées, le ciné, la télé, un peu de mode. Et c'est des choses auxquelles jamais j'aurais pensé, parce que moi mon premier plaisir c'est d'être sur scène. Mais dès qu'on me propose des aventures un peu différentes, bah, je me dis why not quoi, on y va.
Donc, mais votre plaisir, c'est l'aventure aussi.
Exactement. Mais il y a eu plein de choses, de faire la Fashion Week, de se retrouver...
Notre-Dame aussi.
Oui, dans le film avec Valérie Donzelli, première fois sur un plateau de ciné. Et en fait, ça fait vraiment découvrir d'autres univers, d'autres manières de travailler. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas après aussi. Mais,
oui, bien sûr.
Ouais.
Il faut toucher à tout. Ouais,
exactement. Moi, je sais que j'aime...
C'est une chance d'ailleurs. Hein.
Tout à fait.
C'est une chance, il faut en profiter, bien sûr.
Ouais.
Alors, on a parlé de mode, d'Isabelle Marant. Vous avez fait un défilé.
Oui.
Dimitri Chambla, c'est...
Oui, ça c'est Dimitri. On a fait un événement à l'Opéra de Paris pour Longchamp, ensemble. Dimitri, c'est un chorégraphe très important actuellement. Il est sur la scène européenne depuis des années. Il est basé à Los Angeles. Il travaille aussi beaucoup avec Benjamin Millepied. Et en fait, il a créé cette soirée. Il a tout organisé pour Longchamp. Et c'était un plaisir de travailler avec lui. Et c'était très, très, très sympa.
Parlons de votre gala,
Hope.
Alors,
Hope, c'est né pendant le Covid. Hope, c'est né du fait que les artistes apparemment ne servaient à rien.
Mais qui dit ça?
Voilà.
C'est pas possible.
Non, mais c'était. En fait, vraiment, je me suis posé la question. Ça faisait très longtemps que je me la posais. Comment rendre mon art utile, plus utile et concret.
Oui.
Et en fait, il se trouve que mes parents, et comme beaucoup, on a toujours été donateurs du Téléthon, etc. Et que j'ai eu la chance de visiter l'Institut de myologie, qui s'occupe en fait de trouver des solutions pour tout ce qui est en rapport avec les problèmes musculaires. Donc maintenant, il y a des avancées folles, avec une injection, ils peuvent refaire marcher des enfants... incroyable. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, ok, en fait, je pense qu'on peut monter un gala et lever des fonds. Alors tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas rencontré Charlotte Ranson, qui est danseuse à l'Opéra de Paris et qui est devenue mon binôme. J'ai eu l'idée, mais vraiment ça s'est construit à deux. Et je dois dire que j'ai été touchée du nombre de... Après, il y a eu des problèmes de planning, d'indispo.
Ça, c'est les aléas.
Voilà, mais tous des plus grands chorégraphes, Angelin Préjocage, aux moins connus, tout le monde a dit oui. Vraiment.
Et puis vous avez Marie-Agnès Gillot aussi.
Marie-Agnès, les danseurs étoiles.
Première danseuse.
Ouais, danseuse étoile de l'opéra, d'autres, Alice. Enfin, vraiment, tout le monde a dit oui. Et après, on a aussi eu l'idée avec Charlotte de se dire que, bah, il faut être réaliste. C'est pas seulement en vendant des places qu'on va pouvoir vraiment faire une vraie levée de fonds. On s'est dit comment on peut être créative et créer peut-être un moment d'exception. Pour aller encore chercher plus d'argent. Et donc là, on a contacté des chefs. Et y a Pierre Hermé, Juan Arbalès qui avait fait Top Chef, enfin plein de Pierre Sang qui ont accepté de cuisiner pour nous. Bien. Et donc en fait, moyennant, oui, c'était un peu cher, mais je veux dire, les gens, ils pouvaient voir un gala d'exception et après avoir un dîner d'exception.
Génial.
Et la deuxième année, on a levé 130 000 euros pour les enfants malades.
Formidable.
C'était
là,
fou.
Ça, c'était 2024, c'est ça ?
C'était 2024.
Et est-ce qu'en 2025, ça va être reconduit ? C'est la question piège encore ?
Non, c'est pas la question piège. C'est toujours en suspens parce qu'en fait... Pour le coup, c'est vraiment pas notre métier.
Ouais.
On est bénévole avec Charlotte. Charlotte, elle est danseuse à l'opéra. Elle a un gros planning, moi aussi.
Ouais,
en fait, c'est vraiment trouver du temps pour... C'est énormément de temps et d'énergie. Donc, j'ai envie de dire oui, mais je sais pas.
Ouais.
Je ne sais pas.
Et j'ai envie de vous dire, en plus... Laura Arend, est-ce qu'on peut être danseuse et maman ? Est-ce que on
non.
Peut... impossible.
Impossible. Bah bien sûr que oui. Moi j'avais très peur.
Oui.
Faut pas se... Avant d'avoir ma fille, j'avais très 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 peur. Je me suis dit il y a tout qui va s'arrêter. Ça a été vraiment des. J'ai eu quand même une période de doute Et en fait, c'est une question de choix, c'est d'organisation, etc. Mais je pense que clairement, on peut être maman et danseuse.
C'est possible. On écoute un peu de musique ?
Bien sûr.
Au-delà du rainbow ? Avec du ukulélé ?
Exactement, pour continuer dans la bonne vibe.
Absolument.
Fly and the dream that you did too. Oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't I?
Ouais, over the rainbow, au-delà de l'arc-en-ciel, quelque part. Vous êtes toujours sur Allegre FM, l'émission En tant qu'il y aura des femmes. Nous recevons Laura Arendt, qui est une magnifique chorégraphe, une magnifique danseuse, une créatrice contemporaine, qui a une compagnie qui s'appelle L'Arc, qui a monté aussi un événement qui s'appelle Hop, et qui est maman. Et en plus, elle a des nouvelles de sa maman, et sa mère est très contente, et on la resalue à nouveau.
Merci.
Donc, la question c'était, est-ce qu'on peut être maman? En fait, la réponse est oui, vous êtes maman, je dirais, une fois et demie, deux fois et demie.
Bah, deux fois et la troisième.
Et là, j'ai Laura devant moi qui attend un merveilleux. Un enfant de rêve, comme les deux autres, bien
oui.
entendu.
Oui.
Et donc, quand on est danseuse et chorégraphe comme vous êtes et travailleuse, comment fait-on? Comment vit-on? Comment on court? Est-ce qu'on court pas?
Je pense qu'il y a, alors, comme toutes les grossesses, ça dépend forcément.
Oui.
Toute grossesse est unique, mais c'est vrai que j'ai eu la chance. Ma fille, mon petit garçon, c'était un petit peu le coup, mais j'ai eu des grossesses faciles. Ma fille, j'ai dansé quasiment jusqu'au bout. Là, je me sens très bien, fatiguée, mais bien. Donc, je pense que ça dépend aussi des personnes. Mais en fait, tout de suite, avec mon mari, on s'était dit... on ne pensait pas qu'on en aurait trois. Mmh. Mais on s'était tout de suite dit que nos enfants... Ce n'est pas nous qui allons adapter notre vie à nos enfants, mais c'est eux qui allaient
s'adapter
à... Donc, on a tout de suite dit qu'on les emmènerait partout. Ma première fille, elle avait 4 mois quand elle a fait... À 20 mois, elle avait fait 20 voyages. Oui, elle a été partout
génial.
Dans le monde. Elle a pris... ce n'est pas très écologique, mais elle a pris l'avion comme certains prennent le métro.
Oui, très bien.
Voilà, et du coup, c'est un vrai choix de vie de se dire, alors forcément, c'est plus difficile quand avec deux, et je pense que ça va être encore plus difficile avec trois, mais en tout cas, dans notre spirit, dans l'esprit, c'était vraiment ça, quoi. C'était, on peut tout faire avec nos enfants, on peut les emmener partout, voilà.
Et quel âge a votre fille?
La grande, elle va avoir déjà 7 ans.
Et donc, elle danse? Elle fait de la danse?
Elle fait de la danse. Ouais, elle a commencé il y a 2 ans, dans la petite école, on est en banlieue, et cette année, elle voulait vraiment, vraiment faire de la danse classique.
Ouais, c'est bien.
Donc là, elle vit son rêve de classique.
Parlons un petit peu de vos créations, parce que je vais parler un petit peu après aussi de ce groupe qui s'occupe des femmes, justement, des danseuses qui veulent avoir des enfants. Mm-hmm. Ça. Vous voyez ce que je veux dire, oui. Alors, Yara, c'est alors création.
Oui, alors c'est la nouvelle pièce.
C'est la nouvelle pièce, c'est ça,
oui.
Exactement. Qui a été donnée le 12 et le 13.
La semaine dernière.
Oui.
C'était après 2 ans de travail, parce qu'il faut savoir que pour monter une production, un spectacle, entre le moment où on a l'idée, rechercher des financements, créer le spectacle, il y a vraiment 2 ans qui se passent. Et la semaine dernière, c'était l'aboutissement. Donc, c'était... c'est
magnifique.
C'est vraiment ce que je dis. C'est un accouchement. Ouais. C'est mes bébés. Et d'ailleurs, toutes mes pièces portent des prénoms.
Exactement.
Iris, ouais. Léon, Anna. Exactement. Et je pense que c'est totalement en lien avec, avec ça, parce que j'ai l'impression que c'est mes bébés. Et après, ils ont leur propre vie et ils grandissent et les gens ont l'interaction qu'ils ont avec. Et donc là, Yara, c'était la semaine dernière. C'est un trio pour trois femmes, une danseuse classique et deux contemporaines. Et c'était à la scène nationale d'Alençon, en Normandie.
Et là, ça va vous allez le reproduire, c'est ça ?
La semaine prochaine, on repart. Oui, et là, je suis très honorée, c'est au Grand Théâtre du Luxembourg, qui est un lieu phénoménal, historique. Je suis vraiment très, très fière de présenter mon spectacle là-bas.
Oui, mais vous pouvez, parce que vous faites un travail magnifique.
Merci.
Je veux venir vous voir rapidement. Victor, parce qu'il y a tellement de choses là, je voudrais quand même le temps
passe très vite. Allez, Victor, Marie-Agnès Gillot.
Oui, exactement.
Voilà, Victor, ce sera en mai. C'est parce que j'adore travailler avec Marie-Agnès. J'ai travaillé avec elle pour le gala Hope et j'avais très très envie de retravailler avec elle. Il se trouve qu'il y a le magnifique musée de Deauville qui s'appelle les Franciscaines qui nous ont proposé de faire une performance en mai. Et donc, je travaille sur la thématique du dos avec Marie.
Dos à dos.
Dos à dos, exactement. Mmh. Et en fait, comme je suis tombée enceinte et que je ne pouvais pas danser, j'ai proposé un jeune danseur qui s'appelle Mermoz Melchior, qui est incroyable. Et du coup, c'est un duo homme-femme qui aura lieu le 9 mai aux Franciscaines de Deauville.
À Deauville, oui. Iris ?
Allez, Iris, parce qu'il n'y a pas assez de projets. Iris, c'est la compagnie Blanc Contact qui m'a contactée ainsi que trois autres chorégraphes pour créer un spectacle pour des personnes en situation de handicap. On était totalement libres du sujet, de ce qu'on voulait. Moi, c'était évident que je voulais faire une pièce avec une femme, mettre en lumière nos ressemblances. En fait, je me suis vraiment... C'est pour ça que ça s'appelle Iris, pour le prénom et l'œil, l'iris.
Oui, bien sûr.
Et je veux, dans cette pièce, un peu inspirée dans mon mood board, il y avait un peu Crazy Horse. Je voulais parler de la sensualité et que... On peut être une personne, une femme, pas une personne, mais une femme en situation de handicap et être sexy et être belle. Et en fait, c'est un duo où là, je vais danser et avec Annelise, qui est donc la femme qui est en situation de handicap. L'idée, c'est de totalement effacer. On ne va pas savoir qui est la personne qui a une situation de handicap et qui ne l'a pas.
Qui ne l'a pas.
Voilà, ça c'est vraiment de brouiller, d'effacer.
C'est que des magnifiques sujets.
Ouais, passionnant. Ah bon. Oui.
C'est très. Le timing
est serré, mais.
Ouais, mais c'est pas grave. Et donc, alors, ça, au mois de mai, donc au Luxembourg, Iris sera présenté au mois de mai au Luxembourg, c'est
ça ? Tout à fait. Il y a quatre spectacles. Un à Meurges, c'est une ville plus petite à côté de Luxembourg-Ville. Et ensuite, en juin, à nouveau, je retourne au Grand Théâtre pour
le spectacle. Alors, le 23 juillet à Amsterdam, parce que moi, les dates... Non. Alors, la question...
À Bielefeld, oui, en Allemagne.
Oui, vous savez même... Vous faites tellement de choses.
Voilà. Ça, c'est Yara.
Ah oui?
Oui, ça c'est le spectacle.
Au mois de juillet.
Voilà, oui.
Donc vous avez dit effectivement que vous donnez des noms à vos créations des personnages.
Oui.
Enfin, vos œuvres s'inspirent du travail que vous faites, du voyage que vous faites constamment.
Tout à fait.
C'est extraordinaire. De tous ces pays que vous êtes allés, quel est le pays qui vous a le plus impressionné?
Il y en a deux où je retourne, mais. Demain et mille fois, je pense que trois. Brésil, Vietnam et Inde. C'est trois. J'ai adoré le Vietnam. Je coup de cœur tout culinaire, tout. Et le Brésil, parce que la dernière pièce Yara, c'est inspiré de la culture brésilienne des Amazones. Mais le Brésil, c'est le genre de destination, enfin de ville, Rio. Où demain je peux y vivre. Il y a quelque chose de similaire avec Tel Aviv, il y a quelque chose. C'est vraiment une. Ouais, j'ai adoré le Brésil.
Vous avez prévu votre mari que vous allez partir au Brésil ?
Il sait qu'à peu près tous les 15 jours, je change d'idée. Donc il sait qu'à un moment donné, on va rebouger, mais voilà.
Il ne sait pas encore.
On ne sait pas encore où.
En fait, j'ai l'impression que vous... Alors, est-ce que je me trompe ? Est-ce que je peux dire que vos créations sont profondément féministes et que féminine et féministe ? Est-ce que
oui.
C'est ça.
Depuis la naissance de ma fille, c'est devenu un leitmotiv à toutes mes pièces, de mettre en avant la puissance féminine, les femmes. Après, j'ai toujours peur du mot féministe parce
Faut
que...
Pas.
Peut-être, vous avez raison, mais je veux pas, c'est pas pour moi une guérilla anti-homme.
Absolument pas.
Voilà, ouais. et j'aime les hommes, et j'aime travailler avec
oui,
des hommes, et j'aime qu'on me tienne la porte et qu'on m'offre des fleurs.
Exactement, les deux, absolument.
Et
absolument.
Mais je trouve que depuis que je suis devenue maman, je trouve qu'on est incroyable, quoi. Enfin, les femmes,
ah, les femmes sont incroyables.
Voilà.
Oui, je vous garantis. Et c'est vrai que vous parlez aussi de maternité, c'est important pour,
oui.
Pour une danseuse. Et vous avez donc une exigence artistique forte et sensible, c'est incroyable, parce que vous êtes excessivement jeune quand même, quelque part. Vous êtes jeune, vous êtes une jeune femme. Oui.
Bah, merci.
Me dites pas non.
Oh, merci. je suis de moins en moins jeune, forcément, avec les années
oui,
qui
non,
passent.
Mais
je me considère, j'ai un peu un syndrome.
Vous avez une belle énergie.
Syndrome de Peter Pan. Ouais,
oui.
Un peu, j'aimerais bien rester enfant.
Ouais. Vous êtes enfant, quelque part.
Voilà.
Parce que vous aimez la vie, vous aimez les aventures. C'est ça, les enfants.
Tout à fait.
Et vous aimez jouer, en plus.
Oui.
Est-ce que si aujourd'hui vous avez une personne qui vient, homme ou femme d'ailleurs, enfant, qui vient vous voir et qui veut être danseur ou danseuse, qu'est-ce que vous pourriez leur dire comme message, comme conseil, on va dire ? Est-ce qu'on donne des conseils ?
On donne des conseils, on dit bon courage. Non, mais je trouve que c'est de plus en plus dur. Tout simplement parce que déjà, nous, c'était une génération plus difficile que celle d'avant, mais c'est les coupes budgétaires. C'est ouais. Il y a de moins en moins de travail. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de danseurs et de moins en moins de travail. Donc il faut vraiment, vraiment... C'est plus qu'à mon époque. Il faut avoir faim, il faut avoir la rage, il faut être sûr parce que je trouve que ça devient un métier de plus en plus difficile.
De toute façon, ce n'est pas un métier facile, la danse,
non.
Contrairement à ce qu'on croit.
Non.
Les gens s'imaginent toujours qu'on passe deux mois à la télé et on devient un chanteur et on
Exactement.
Devient danseur, alors que ce n'est pas du tout ça. Et aussi, non. Souvent, les danseurs deviennent chorégraphes, alors que c'est un métier d'être chorégraphe.
Exactement, tout à fait.
Ben oui,
je l'aurais fait à musique.
Je connais bien. Donc voilà, donc ça aussi, c'est aussi une chose... Tout le monde est chorégraphe, tout le monde est danseur,
mais
en
non.
fait,
non.
quoi ? Pour dire quoi et pour
Exactement.
Faire quoi ?
Exactement.
Et pour continuer, et la danse, c'est quoi pour vous ? Ça représente quoi dans votre vie ou dans le...
Moi, j'ai toujours cette phrase un peu kitsch, mais c'est ma vie, en fait. Depuis que, comme on a commencé l'émission, mais depuis que j'ai 4 ans ou 9 ans, je rêve que de ça. J'ai saoulé ma famille avec ça. C'est tout, c'est ce qui me fait me lever le matin. Bon, maintenant, il y a d'autres choses, il y a les enfants, etc. Mais c'est vraiment ce qui me drive, quoi. C'est un plaisir fou d'être sur scène, c'est une drogue. Et puis surtout, ça a ce pouvoir, la danse, on n'utilise pas de mots.
Oui.
Et donc, au final, on peut rassembler...
Tout le monde se comprend.
Tout le monde peut se comprendre.
Ouais. Il n'y a pas de langage, en
Exactement,
fait.
Exactement.
Ouais,
c'est
langage
un
du
langage
corps,
universel.
En fait, la danse, c'est une formidable réponse, un vecteur extraordinaire de liberté, d'épanouissement et de thérapie. Et tout simplement, c'est le bonheur, en fait. Mais on a pas dit une chose qui était intéressante aussi, c'était que Iara, c'était aussi un rapport avec les Amazones. Vous avez fait un parallèle.
Tout à fait.
Avec
la pièce, c'est sur les Amazones. Encore une fois, c'était l'idée de vouloir parler de la femme conquérante.
Oui.
Il y a l'allégorie de l'Amazone qui arrivait. Je me suis dit, oh, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler de ces femmes. Et puis en fait, toute la pièce, c'est un aller-retour entre le passé et le présent. Parce qu'on a des Amazones contemporaines. Simone Veil, pour moi, c'est une Amazone. Et en fait, on fait pendant toute la pièce, on va parler autant des Amazones dans le fantasme,
Passé,
quoi,
ouais.
et du droit à l'avortement. Voilà, tout ça est toujours très subtil parce que ça reste la danse pour moi. Mais oui, il y a beaucoup de messages dans cette pièce.
Bien. Alors, vous m'avez dit que votre fille, qui a 7 ans, va être sans doute danseuse. Donc là, vous attendez un enfant à nouveau.
Oui, une petite fille.
Et j'ai vu que vous avez donné un texte Vous avez écrit un texte. Pour votre fille, c'est pour votre fille, c'est ça ?
Mm-hmm. Je lui ai dédié ma dernière création.
Voilà, donc on va vous écouter sur ce texte.
Faut pas que je pleure. À toi, ma fille. Sans le savoir, je t'ai donné le prénom d'une déesse brésilienne. Celle des eaux qui chante et envoûte. Celle qui inspire force et mystère. Ce spectacle, je te le dédie. Elle est un miroir de mes luttes et un écho de mes espoirs. Chaque pas, chaque geste, chaque lumière sur scène porte le souffle de ce que je veux te transmettre, le courage de rester debout, la liberté de danser qui tu es et la fierté de tracer ton propre chemin. Ce spectacle, c'est ma promesse pour toi et pour toutes les filles d'hier et de demain. Une promesse de continuer le combat, de montrer que tout est possible, même quand les vents sont contraires. Parce qu'un jour, ma douce guerrière, c'est toi qui porteras la flamme.
C'est magnifique.
Merci.
Et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Parce que
merci
vraiment,
à vous.
Je suis vraiment très heureux de vous avoir rencontré.
Moi aussi, c'était un super moment, merci.
Oui, merci à vous et vous me donnez l'espoir sur le genre humain. Donc, et l'avenir et nos enfants. Et merci donc aux auditeurs pour leur écoute. À Armand Gury pour son écoute, mais en fait il y a aussi René et Léa qui sont là, qui nous ont aidé à faire cette émission. Donc, merci à vous deux. Et puis écoutez, bonne route, bon
merci.
Voyage.
Merci beaucoup.
Et puis revenez si vous avez des choses à nous
avec
dire.
Avec très grand plaisir.
N'hésitez pas à revenir.
Merci.
Tant qu'il y aura des femmes. Avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.